Bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Selon notre bonne habitude, nous regardons la liturgie qui est utilisée dans les églises catholiques. Et je répète parfois, et j'aime bien le répéter, dans les églises protestantes qui utilisent le même lectionnaire, de très beaux textes. D'abord, l'Évangile, il s'agit du tout début de l'Évangile de Marc, lequel Marc nous accompagnera tout au long de l'année.
Oui, puisque nous entrons dans l'année liturgique dite B, et nous avons dans notre Évangile de ce dimanche les versets 1 à 8 du tout premier chapitre de l'Évangile de Marc. Ça fait partie du prologue du livre de l'Évangile de Marc. Chacun des évangiles est un livre, un ensemble organisé, cohérent, du premier au dernier chapitre. Le prologue de l'Évangile de Marc contient en fait les versets 1 à 13, c'est-à-dire inclut le récit du baptême de Jésus, que nous n'aurons qu'au mois de janvier, et Jésus tenté ou mis à l'épreuve au désert, un texte que nous n'aurons qu'en mars. Mais en fait, ces versets 1 à 13 devraient tous être lus d'un seul morceau, puisqu'ils constituent le prologue de l'Évangile. Il y a une gestion du temps très intéressante et originale dans ce prologue, et cette gestion du temps, elle est catéchétique. On s'attend à l'histoire de Jésus, et donc, pour la communauté chrétienne pour laquelle Marc écrit, on s'attend à retourner dans le passé, dans un passé qui n'est pas très loin par rapport à l'époque de l'Évangile de Marc.
Rappelez-nous donc à peu près quelle année.
Disons au tournant de 70.
Ça, puis Jésus est décédé en 30.
Ouais. C'est ça. Mm-hmm. Donc, les gens s'attendent à se faire parler d'un passé relativement proche. Or, on remarquera la toute première phrase de cet Évangile appartient au présent de la communauté chrétienne et au présent des lecteurs, puisqu'elle est une profession de foi chrétienne.
Quand vous dites profession de foi, est-ce que vous parlez seulement du premier verset ou ce que je vais lire? Écoutez, ça se lit comme suit, un commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Voilà,
donc c'est une profession de foi.
Oui. Ensuite, on s'attend, après cette première phrase, à ce qu'on parle de Jésus, mais non, on aura une citation qui va nous amener dans un passé beaucoup plus lointain, en arrière, ça nous ramène de plusieurs siècles en arrière. Et seulement ensuite, on va entrer dans les événements autour de la personne de Jésus. Alors, déjà là, ça nous donne un bon exemple de la gestion soignée que Marc fait de ses matériaux et de la façon dont il essaie de nous catéchiser.
Bien. Alors, j'en fais lecture à l'instant même. C'est en Marc, évidemment, chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Celui qui est plus fort que moi vient derrière moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera de l'Esprit-Saint. » Francine Robert, le tout début, donc, de cet évangile de Marc est un bon exemple du style de cette œuvre. Hein. Il y a quelque chose, il y a eu une narration rapide, là, une intensité dans la narration. Tout s'enchaîne avec une rapidité remarquable.
Oui,
quoi.
Oui, on passe de maintenant à Isaïe, à Jean le Baptiste, très rapidement. Et on dirait que c'est une manière pour Marc de nous inviter à lire lentement. C'est-à-dire, ça manifeste un récit d'une grande densité qui réclame d'être lu à plusieurs niveaux. Par exemple, ce dont je parlais tout juste avant la lecture, la gestion du temps, qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas si on passe trop vite. Mais nous sommes bien passés du temps des croyants au temps d'Isaïe, avec donc un recul de 5 siècles, et ensuite au temps de Jean le Baptiste. Donc, chez Marc, je dirais, il y a ce désir d'élargir la bonne nouvelle à la fois vers le présent, la foi chrétienne, et d'élargir la bonne nouvelle vers le passé d'Israël.
Quand vous dites ça, c'est parce que tout de suite, il fait référence au prophète Isaïe.
Oui,
donc, on recule 4 à 5
oui.
siècles en arrière.
La citation, elle est rattachée à commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et donc, où est ce commencement de l'évangile? On se dirait, c'est la vie de Jésus, mais non. Comme il est écrit dans Isaïe, le prophète, mais le début de la bonne nouvelle ou de l'heureuse annonce,
bon, mais justement,
ça la place dans le passé d'Israël.
OK. Oui.
C'est certain que l'auteur, cet auteur que nous appelons Marc, a utilisé en bonne partie des éléments traditionnels, hein, c'est-à-dire donc des récits, même des références au Premier Testament, comme celles que nous avons aujourd'hui, qui existent déjà dans la catéchèse chrétienne. Marc ne compose pas à partir de rien, mais il utilise une tradition qui, à partir des souvenirs sur la vie de Jésus, a été retravaillé de manière à devenir la catéchèse chrétienne dans le but d'éclairer l'expérience croyante. Et ces matériaux-là, en partie disponibles à l'évangéliste Marc, pour le texte d'aujourd'hui, seraient par exemple des récits déjà existants sur Jean le Baptiste, vraisemblablement une tradition sur le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Et l'originalité de l'auteur final de cet évangile, c'est la façon dont il met ensemble ces matériaux et la manière dont il les utilise pour les mettre au service de la perspective globale de tout son livre. J'aimerais utiliser peut-être une image ici pour aider à comprendre ce que signifie lire de cette manière-là. C'est comme si Marc nous invitait à ajuster le regard, un peu comme on le fait lorsqu'on ajuste une lentille, bon, c'est l'expression anglaise qui me vient. Lorsqu'on fait de la photographie et qu'on fait le focus.
Ouais. Yes. Le foyer, je
le
pense
foyer,
en français.
Voilà, merci.
Ouais, ouais, ouais. On met en foyer.
On met en foyer. Mm-hmm. Alors, c'est comme si on s'attend à focaliser sur le personnage qui est à l'avant-plan, qui dans notre esprit sera d'abord Jean le Baptiste et ensuite Jésus. Et en introduisant Isaïe, Marc déplace le foyer vers ce qui est dans le fond de la scène.
Ouais, ouais.
Et le personnage à l'avant-plan devient flou.
Devient plus flou. Ah, ouais, c'est
intéressant,
on est
amené
ça.
À voir derrière le paysage. Et bien sûr, il s'agit d'un paysage qui est l'horizon théologique. Alors, mon image, elle est de l'ordre du visuel, mais en fait, ça renvoie à l'ordre théologique. Et Marc nous dit ainsi, regardez bien, ajustez bien votre regard. Ce que je vais raconter, ce n'est pas uniquement le déroulement de certains faits qui sont survenus dans le temps de Jésus. C'est une trame narrative plus profonde, en dessous de la surface. Ajustez bien le regard, parce qu'il s'agit de toute l'histoire du salut. Et donc, ses racines sont loin en arrière et elles iront aussi loin en avant, c'est-à-dire après Jésus. Donc, ça fait de nous, je dirais, un lecteur qualifié au plan du regard pour dépasser la surface du récit de l'évangile de Marc.
Francine Robert, je vous propose que l'on regarde ce premier verset qui est, moi je trouve, comme vous disiez très bien, qui est une profession de foi. J'en fais lecture à nouveau. C'est « Commencement de l'évangile de Jésus ». Christ, Fils de Dieu. Si on prenait ça le mot par mot.
Oui, et il n'y a aucun mot superflu. Hein. Il n'y a que commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. D'abord, faire attention à ne pas lire cette phrase comme le titre du livre.
On serait porté à penser ça, effectivement.
Ouais, et tout bêtement, donc on passe vite, c'est seulement le titre.
C'est le titre, c'est ça. Ouais.
C'est, d'abord, il n'y a pas de titre dans ces livres-là, dans aucun de ces livres-là. Et la manière dont un auteur commence est toujours objet de réflexion.
Non, parce qu'on peut dire que tout est compris dans la première phrase. J'exagère.
Ce serait en très concentré.
Un concentré
d'une très, très grande densité.
Parce qu'en littérature antique, les débuts des œuvres, normalement, condensent.
Oui,
mais là, c'est juste une phrase du début, mais quand même.
C'est toute une phrase. Ouais. Qui est au présent, qui est le point de vue croyant, le point de vue chrétien. Alors, d'abord, le premier mot, on va commenter chacun rapidement. Commencement, le arché, que l'on trouve aussi dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole ou était le verbe dans l'évangile de Jean. C'est le même « au commencement » que l'on trouve, bien sûr, dans le livre de la Genèse, en traduction grecque. Peut-être se rappeler que chez Marc, tout commence au moment où Jésus est déjà adulte. Hein. Donc, on n'est pas dans les plus longs commencements de l'évangile de Matthieu, par exemple.
Oui, Matthieu et Luc, où on parle
de l'enfance de Jésus. Et avec la généalogie en plus dans Matthieu. Ouais. Chez Marc.
Jésus est adulte, et puis il est en fonction. Quoi.
Il sera en fonction dès le verset 14, pour reprendre votre expression. Et d'ailleurs, la première chose que Jésus dira lorsqu'il ouvrira la bouche au verset 14, ce sera pour proclamer la bonne nouvelle. Or, ici, c'est bien ce que nous avons comme deuxième mot, commencement de la bonne nouvelle, ou commencement de l'Évangile. En passant, ce commencement, je le rappelle, Marc le fera enchaîner tout de suite avec la citation du Premier Testament. Hein. Donc, c'est un commencement, mais qui est déjà précédé d'une heureuse annonce ou d'une bonne nouvelle dans notre première lecture d'Isaïe que nous travaillerons tout à l'heure. Alors, ce mot « évangile », commencement de l'Évangile, qui dans le lectionnaire a été traduit « bonne nouvelle », c'est présenté dans l'évangile de Marc comme le thème principal de la proclamation chrétienne, de la proclamation de Jésus d'abord. Il dira lui-même qu'il est venu pour proclamer la bonne nouvelle. On peut traduire le mot évangile par effectivement bonne nouvelle ou heureuse annonce ou simplement évangile. C'est pas une traduction, c'est une transposition du mot grec. C'est prononcé à la française finalement euagelion.
Eux en grec qui veut dire bon,
oui,
bien.
Oui, bon ou bien.
Puis agelion
message.
Qui veut dire message.
C'est ça. C'est bon message. Mm-hmm. Alors bonne nouvelle, c'est une traduction littérale si on veut de bon message. Donc c'est un mot qui est riche de sens. On y reviendra lorsqu'on travaillera le récit du début de la mission de Jésus en janvier. Donc c'est-à-dire Marc 1, 14, 15. Pour aujourd'hui, retenons que c'est un bon message, un message qui fait du bien. On l'éclairera avec Isaïe 40 pour voir que c'est un message de salut. Et c'est un message qui a un caractère de nouveauté, hein, qui est censé étonner.
Bien. Et maintenant, on va regarder les titres. J'appellerais ça peut-être des titres christologiques.
Oui.
En fait, c'est ça, c'est Christ. C'est ou Messie, hein, qui est le même mot qui traduit là, Christ ou Christos, qui veut dire ouin, O-I-N-T, fils de Dieu. Alors, ce sont des titres.
Ce sont des titres qui disent la foi en Jésus. Hein. C'est une déclaration, évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. C'est une déclaration qui n'a de sens que pour le chrétien. Christ n'est pas un nom propre, fils de Dieu n'est pas un nom propre, c'est du point de vue de quelqu'un qui reconnaît déjà en Jésus qui lui est un nom propre.
C'est ça, dans le personnage humain, enfin la personnalité humaine du nom de Jésus, on le reconnaît comme Messie, fils de Dieu.
Voilà. Mm-hmm. Alors, c'est certain que Marc, en mettant cela au début, donne en même temps à son lecteur la clé de son livre. Hein. L'enjeu véritable du livre sera l'identité de Jésus. Cet homme Jésus, qui est-il et qu'en dit-on lorsque on le reconnaît comme Christ? Mais Marc place d'abord le nom de Jésus, hein, qui nous situe dans le temps humain, dans la condition humaine. C'est bien de cet homme Jésus qu'il s'agit. Comme dit Pierre à la Pentecôte, cet homme Jésus que vous avez fait crucifier, Dieu l'a ressuscité. C'est cet homme Jésus. Alors, c'est important, nous, enfin, j'entends souvent des gens qui ont tendance à faire le raccourci, ce fils de Dieu, Jésus. Mais c'est cet homme Jésus en qui on reconnaît le fils de Dieu. Ce qui n'est pas la même chose.
Pas pareil, ouais.
La bonne nouvelle...
Bon, justement, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, ou c'est la bonne nouvelle à propos de
oui.
Jésus?
Les deux sens sont possibles dans le grec comme dans le français. Hein? C'est une bonne nouvelle sur Jésus ou une bonne nouvelle que Jésus dit.
Donc, ça, c'est ça. Les deux sens sont...
Les deux sens sont possibles.
Ça provient de Jésus et c'est aussi à propos de
Jésus. Et mm-hmm. je crois qu'on doit maintenir les deux sens plutôt que de choisir. Je pense que l'ambiguïté ici, elle est volontaire. Et en tout cas... Marc s'en accommode bien si elle n'est pas volontaire. Cette clé sur Jésus nous donne un avantage sur les personnages du livre. Hein. On va se rendre compte que, à mesure que le livre de Marc progresse, plein de gens se posent des questions à propos de l'identité de Jésus. Et nous, comme lecteurs, on a été prévenus dès le début, ou on s'est fait rappeler dès le début cette identité. Et c'est comme si en même temps, ça nous prévient qu'elle n'est pas évidente. Nous, on la prend comme évidente, on dit ça, oui, Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Alors, Marc nous la donne dès le début, mais va s'acharner à nous montrer qu'elle n'est pas évidente du tout pour les gens qui côtoient Jésus, qui, au contraire, ces gens utilisent les titres parfois à temps et parfois à contre-temps.
Nous, on se fait dire, au tout début, Jésus, Messie, Fils de Dieu, ou
oui.
Christ, Fils de Dieu. Bon, on parle avec ça. Mais les personnages, tout au long de son œuvre, vont utiliser différents titres.
Oui, et quand ils vont utiliser ces titres-là, même, on ne sera pas sûr que c'est bon. Mm-hmm. Alors, vous voyez, personne ne va désigner Jésus comme Christ avant la première moitié du livre. Comme on le disait la semaine dernière, c'est Pierre, au chapitre 8, qui va répondre à la question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ? Tu es le Messie. »
C'est ça.
Ou « Tu es le Christ. Mm-hmm. » Ce qui veut dire la même chose. Et c'est la première fois, et on est rendu à la moitié du livre. Et le titre de fils de Dieu, ça va prendre encore beaucoup plus de temps, ça sera dit par le centurion au pied de la croix.
Donc, vers la fin de l'évangile.
Oui,
répétons que ce centurion est un romain. Alors.
Oui.
C'est un païen, entre guillemets. Alors.
Exact.
Est-ce que chez Marc, ça serait le représentant des membres de sa communauté qui ne sont pas d'origine juive?
Oui, je pense. Hein. C'est ce qu'on dit, et parce que Marc, possiblement, écrit pour une communauté chrétienne à Rome.
Oui.
Et ce qui est intéressant, surtout dans la proclamation du centurion, vraiment cet homme était fils de Dieu.
C'est très fort. Il reprend la première ligne de l'évangile.
Et il le dit devant Jésus, mort.
Ah, tiens.
Ça, c'est voyant qu'il était mort ainsi, le centurion dit. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Alors que pour nous, dire fils de Dieu, c'est dire la gloire.
Tu avais raison.
Marc,
il est en présence d'un cadavre, finalement.
Tout à fait.
Imaginez.
Un mort en croix.
Il est en croix, il le regarde, puis il dit vraiment, cet homme
était.
Donc, c'est à l'imparfait.
Absolument.
On aura à revenir là-dessus.
C'est spécial.
Oh oui, à l'approche de Pâques, oui, là, on va avoir à regarder ça.
Il y a d'autres endroits où les titres de fils de Dieu ou de Christ, Messie, sont utilisés dans Marc. D'abord, bien sûr, la voix du ciel, hein, au baptême de Jésus et à la transfiguration, qui désigne Jésus comme fils bien-aimé. Mais des esprits mauvais aussi vont appeler Jésus le Saint de Dieu, par exemple, à la synagogue de Capharnaüm, au chapitre 1, le Fils de Dieu, esprit mauvais aussi, au chapitre 3, et le possédé de Gérasa aussi, au chapitre 5, en Fils du Dieu très haut. Alors, voyez, c'est pas parce qu'on a le bon titre qu'on sait ce qu'on dit. Non, je pense qu'il y a là une gestion des titres dans l'évangile de Marc et en même temps une sorte d'avertissement au lecteur. De même, quand on entend le grand prêtre poser plus ou moins la question au procès à Jésus, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Et qu'on se doute bien que la question n'est pas une vraie question. Et ça va être repris aussi dans l'ironie dont les chefs religieux vont faire preuve devant Jésus crucifié, s'il est le Christ, qu'il descende de la croix. Alors, voyez, je dirais que Marc, en mettant ces deux titres, Christ et Fils de Dieu, dès le début de son évangile, je dirais, il suggère au lecteur d'être bien vigilant sur l'utilisation que ces personnages en feront. C'est pas parce que nous utilisons les bons titres, les titres de la foi, lorsqu'on parle de Jésus, que ça garantit la pertinence de notre croix. On peut très bien dire de Jésus qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et passer à côté, comme la plupart des personnages qui, dans cet évangile, utilisent ces titres et passent à côté. Donc, tout dépend du sens que l'on donne à ces titres ou à ces mots. Nous sommes invités à, non pas à seulement les répéter, mais à nous demander, nous, comment les comprenons-nous, ou qu'est-ce que nous mettons dans ces mots-là.